Frédéric Bedos, journaliste d'Espérance.
La première chose qui vous frappe lorsque vous rencontrez Frédéric Bedos, c'est sa simplicité. Pourtant, en lisant son CV, M6, MTV, Energy ou Fashion TV, vous vous attendez à une diva du petit écran. C'est tout sauf Frédéric Bedos. Jean, basket, grand sourire et grand cœur, une femme de 44 ans comme les autres, ou presque. Après avoir passé sa prime enfance avec Jeanne, une maman à la douce folie, elle est adoptée par une famille un peu atypique, 20 frères et sœurs du monde entier, amochés par la vie ou handicapés, des inadoptés tendrement recueillis, tout comme elle, par Marité et Michel, parents de cette grande famille du genre humain. Elle le raconte avec tendresse dans son livre « La petite fille à la balançoire » sorti en 2013, que je vous recommande chaudement. Des valeurs fortes de fraternité qui se font prépondérantes un beau matin, après 18 années sous les projecteurs. Pas de ras-le-bol du showbiz, juste un rendez-vous avec elle-même, des retrouvailles entre la petite fille et l'adulte, les valeurs de l'enfance et la femme des médias, et la naissance du projet Imagine, un média philanthropique et participatif sur le net pour aider ceux qui aident et faire un journalisme d'espérance qui donne envie de se lever, pour marteler que tout est possible à condition d'oser, oser être soi-même, oser aimer, mais aussi oser parler des femmes et des hommes, le nom du dernier film produit par la réalisatrice qui relaie la parole de militante de l'égalité des sexes sur tous les continents, de toute confession, de toutes les sphères culturelles ou économiques, réalisée grâce à la solidarité et au bénévolat de nombreux professionnels du cinéma. Je vous propose d'écouter Frédéric Bedos juste avant la projection de son film à l'espace culturel Bonne Fontaine à Fort-Calquier les 6 et 7 octobre dernier, à l'occasion des rencontres Envie d'humanité de l'association IDE de Philippe Courbon. Frédéric Bedos, moi j'ai lu votre livre « La petite fille à la balançoire ». On se rend compte que vous avez grandi dans une famille pas comme les autres. Alors qu'est-ce que vous ont appris et apporté Marité et Michel ?
Marité et Michel, c'est mes parents adoptifs. Et ils m'ont adoptée et sauvée, moi, mais pas seulement moi. En fait, on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier. Et c'était que les enfants inadoptables, ceux dont personne ne voulait, soit parce qu'ils étaient trop âgés, soit parce qu'ils souffraient de multiples traumatismes, parce qu'ils avaient déjà eu des vies chaotiques, soit parce qu'ils souffraient de handicaps très lourds, trop lourds. Et puis parfois, c'était un petit peu de tout ça à la fois. Et donc finalement, le message principal qu'ils nous ont transmis, c'est d'abord un message d'amour, qui veut dire que tout est possible, que c'est jamais joué d'avance. Finalement, avec ce mot inadoptable, il y avait une espèce de condamnation sur nos têtes. En gros, pour cet enfant-là, c'est déjà foutu, ou alors ça va être très compliqué. Et eux, ils ont posé un autre regard sur chacun de nous, un regard d'espérance, un regard qui, finalement, nous a donné notre chance. Et ce qui est très beau aussi, c'est que je trouve qu'on est dans une société qui prône beaucoup la tolérance, comme si c'était la valeur principale, le graal à atteindre, alors que quand on y pense, qui rêve d'être toléré ? On rêve tous d'être aimés. Et si mes parents s'étaient contentés de nous tolérer sous leur toit, on n'aurait pas été sauvés. Donc ils nous ont aimés, et c'est ça qui nous a sauvés.
C'est joli ce que vous dites, parce que c'est vrai que les mots ont quand même une importance forte dans notre société. Il y a beaucoup de mots qu'on emploie sans finalement vraiment réfléchir sur leur sens. On parlait tout à l'heure pendant la conférence de presse de fraternité. Vous, c'est un mot par contre qui vous fait écho, celui-ci ?
Oui, la fraternité. Et puis moi, j'aime beaucoup parler de la grande famille humaine. Et c'est très intéressant ce mot famille, parce que pour le coup, voilà, mon enfance fait que j'ai effectivement été élevée dans une famille un peu particulière. Et quelle est finalement la qualité première de cette famille ? C'est qu'elle n'a pas l'esprit de famille. Ma mère disait toujours, mais faut surtout pas avoir l'esprit de famille, c'est terrible, ça veut dire l'esprit du clan. Ma famille d'abord, on verra après pour les autres. Eux, c'était pas possible ça. Ça veut dire que leurs bras étaient toujours grands ouverts à ceux qui avaient besoin d'être accueillis. Et c'est ça finalement la famille. C'est ceux qui vous accueillent, qui vous ouvrent les bras et qui vous accueillent. Là où vous pouvez vous réfugier, quel que soit votre état, quel que soit aussi vos qualités, vos défauts, c'est pas ça le problème. À un moment, on a tous droit à la vie. Et pour pouvoir vivre, il faut pouvoir être accueilli, protégé quelque part, trouver un endroit où se nicher.
Vous dites ma mère, mais finalement vous avez deux mères. Donc vous dites maman pour les deux ?
C'est vrai, j'ai deux mamans parce qu'il y a ma maman adoptive, donc Marie-Thérèse, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir ma maman biologique qui s'appelle Jeanne. Le seul souci de ma maman biologique, c'est qu'en fait, elle était trop fragile pour pouvoir vraiment m'élever pleinement. On a découvert peu à peu qu'elle avait des problèmes psychiques puis psychiatriques. Et pour autant, bien sûr, c'est ma maman chérie parce qu'elle m'a non seulement donné la vie, mais énormément de tendresse tant qu'elle a pu. Peu à peu, sa maladie s'est aggravée, mais tant qu'elle a pu, elle m'a donné cette tendresse. Et la tendresse qu'on reçoit quand on est tout petit, c'est une source d'énergie, de dynamisme incroyable. Et moi, je sais faire la différence parce que la plupart de mes frères et sœurs ont été abandonnés à la naissance. Et donc, je sais à quel point c'est une amputation terrible que l'on garde comme ça tout au long de sa vie. Il faut des trésors de tendresse pour pouvoir se relever de cela.
Écrire un livre sur sa vie, ça doit faire un peu peur, non ?
C'est clair, moi je me suis jamais dit, tiens, si j'écrivais un livre sur ma vie, on m'a mis la pression, on m'a forcé. Il faut dire que, voilà, quand j'ai lancé le projet Imagine, j'ai commencé en évoquant l'histoire de ma famille adoptive. Je suis pas du tout rentrée dans les détails de ma vie personnelle. J'ai juste dit, voilà, mes premiers héros sont mes parents. Et j'ai juste évoqué ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que les maisons d'édition sont venues me voir en me disant, bah, vous avez une histoire qui est porteuse d'un message d'espérance tellement fort que vous n'avez pas le droit de le garder pour vous. Alors ça m'a travaillé, j'ai résisté pendant longtemps, hein, pendant plusieurs mois, voire plutôt même des années. Et puis ils ont eu raison de moi.
En fait, vous étiez un petit peu, on va dire, à l'apogée de votre carrière dans le show business. Est-ce qu'à un moment, il y a eu un ras-le-bol ? J'en ai marre de superficialité, de ce monde-là. J'ai envie d'autre chose.
Pas du tout. J'ai pas eu de ras-le-bol parce que je faisais des belles émissions et donc je ne renie rien, je ne regrette rien, j'ai appris plein de choses et j'ai fait plein de choses, j'ai voyagé dans le monde entier, etc. Simplement, à un moment, j'ai eu un rendez-vous avec moi-même. Finalement, le projet Imagine, c'est le puzzle de ma vie. C'est d'un côté mes compétences professionnelles, je suis une femme de médias, et de l'autre, toutes ces valeurs de mon enfance qui sont remontées à la surface. Et donc, d'un coup, je me suis dit, mais finalement, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est du journalisme, mais avec espérance, parce que ça fait la différence. Et notamment en faisant le portrait de toutes ces personnes du monde entier qui font des choses extraordinaires, qui vraiment se sont levées, se sont mises debout face à des problématiques très concrètes et ont réussi à mettre en place des alternatives, des solutions qui fonctionnent. Et quand on voit les résultats, on est juste bluffé et surtout on a un effet de contagion, on a un effet miroir. Ce sont des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Ils n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates, ils n'ont pas le cerveau d'Einstein. Et donc, ils nous montrent à quel point tout est possible. Et c'est ça le message du projet Imagine. C'est marteler ce message de tout est possible et surtout, eh bien, que le monde nous appartient et qu'il faut absolument le réaliser. C'est dans nos mains. C'est comme ça qu'on changera le monde. Chacun, chacune, en se levant de notre fauteuil et en essayant chaque jour de faire du mieux qu'on peut. Ça ne viendra pas d'en haut, ça ne viendra pas des puissants de ce monde, ça ne viendra pas des politiciens. Ça viendra de nous et c'est comme ça que c'est beau. Le chiffre hallucinant, vertigineux, 67 personnes dans le monde possèdent à elles seules plus de la moitié de la richesse du monde. 67 personnes. Donc ça veut dire qu'encore une fois, ce monde, il y a pléthore pour tout le monde. Mais il va falloir apprendre à partager, il va falloir apprendre à s'aimer.
On va voir un film sur l'égalité entre hommes et femmes qui malheureusement n'est pas encore atteint, ni en France ni ailleurs. Sur quel front il faut se battre pour...
Et ben, en fait, avec le film, on se rend compte qu'il faut se battre sur tous les fronts. C'est-à-dire que ce film montre non seulement on n'est pas arrivé à un statut d'égalité, mais pire que ça, on recule. Et on recule de façon très significative. C'était la raison pour laquelle je me suis penchée sur ce film, parce que quand j'ai réalisé que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait dit qu'on reculait sur ce domaine-là dans le monde entier de façon très significative, je me suis dit que j'avais besoin de comprendre exactement de quoi il en retournait, quoi. Et j'ai appris des choses incroyables. Que ce soit au niveau géographique, c'est une réalité absolument globale, mais aussi c'est une réalité qui a des conséquences sur tous les aspects de la société, économique, historique, psychologique, culturelle, religieuse. Par n'importe quel bout où vous prenez cette problématique, vous avez toujours le même constat, les femmes sont écrasées. Alors, ça veut dire qu'il y a un grand, grand défi devant nous, mais c'est surtout que ça veut dire que ça nous concerne tous, que c'est pas une question de bonne femme ou de féministe, et que le prix à payer est bien trop cher. Donc il y a une universalité qui est touchée par ce problème. Et donc ça veut dire vraiment, j'espère qu'avec ce film, eh bien, ça peut éveiller les consciences et donner envie de s'emparer du sujet, tout simplement. Parce que j'ai bon espoir, comme toujours. Moi, je fais du journalisme avec espérance.